La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, notre invité Jean-Christophe René vient interroger Jacques Maritain. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour Claire.
Je crois que vous vouliez revenir sur l'éducation, sur la politique et sur le monde d'aujourd'hui dans cette émission.
Oui, merci Claire. Comme vous le savez, cette date de confinement ne m'a pas permis de lire les œuvres de Maritain, ni celles sur l'éducation, ni celles sur la politique. Par contre, j'ai pu écouter les émissions de radio que vous y avez consacrées. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'échanger sur la base de cette écoute et développer notre échange sur trois axes. Le premier sur effectivement l'éducation, le deuxième sur le politique et son rapport à l'éducation. Et le troisième axe, ce qu'aurait pu être la pensée de Maritain dans notre société actuelle, globalisée par l'Internet, pluriculturelle, pluriculturelle. Voilà, alors donc on va commencer avec l'éducation. Et en ce qui concerne l'éducation, je crois que la première chose, c'est... qu'évoque Maritain, c'est la finalité de l'éducation.
Tout à fait.
Basée sur deux définitions que vous avez données, que je ne vais pas répéter ici, mais je pense qu'on pourrait s'accorder tout à fait, enfin en tout cas moi, je pourrais m'accorder sur ce projet de l'éducation comme défini par Maritain, comme un processus dynamique qui s'inscrit dans un contexte historique, social et culturel d'une nation. Ça, je crois que cette base-là est tout à fait en ligne avec ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Et on voit aussi, je crois que c'est important de souligner, le lien qu'il y a entre le projet éducatif et le projet politique. Ce qui est un peu curieux, c'est de noter la définition de l'homme comme une abstraction platonicienne, telle que le dit Maritain, puisque en réalité, le projet chez Platon, le projet éducatif, prend corps dans son livre La République, précisément dans un contexte d'une cité républicaine et au service de l'ordre harmonieux de celle-ci. Il faut aussi, je pense, rappeler que dans la cité, chez Platon, la cité est vue comme un organisme vivant, non pas comme une pure mécanique. Bon, je fais ici une brève remarque sur l'allusion négative que Maritain fait de Platon. Alors, il me semble que c'est pas la première fois et qu'elle est présente un peu de manière récurrente dans son œuvre, d'ailleurs conjointement avec des attaques beaucoup moins allusives en ce qui concerne la philosophie critique de Kant.
Bon, c'est certain. Et le contexte, pour revenir sur Platon, dépend aussi de la réminiscence. Et finalement, quand Maritain critique Platon dans l'éducation, c'est parce que il y aurait un savoir tout constitué de l'ordre, pour faire le lien avec le mythe de la caverne finalement, et c'est ensuite l'éducation qui viendrait faire affleurer ce savoir préexistant. Et pour Maritain, non, ce n'est pas possible. L'éducation est un processus dynamique, comme vous le rappeliez, et la critique platonicienne porte aussi sur cette réminiscence d'un savoir préétabli.
Ça, je suis d'accord avec cette critique-là. Par contre, c'est le côté de l'abstraction qui me pose un peu un problème. L'abstraction chez Platon, quant à l'éducation, je ne dirais pas que l'éducation chez Platon est pour un homme abstrait. Je pense qu'elle est vraiment faite pour le citoyen de la République, tel qu'il est défini dans son livre. Bon, peu importe, je pense que c'est une critique marginale. Je pense que la critique principale, elle est surtout la critique sur la critique, c'est-à-dire la critique de Kant. Je crois aussi que je comprends un peu le fond de ça, c'est que cette philosophie réaliste chrétienne, effectivement, s'appuie plutôt sur Aristote et pas sur Platon, et sur Aristote à cause de sa plasticité, on va dire, à l'interprétation chrétienne qu'en fait Thomas d'Aquin. La philosophie réaliste chrétienne, on l'avait vu dans des émissions précédentes, rejette aussi en bloc la critique kantienne, qui définit la connaissance dans sa quête spéculative sur la seule base des phénomènes sensibles. C'est-à-dire que pour Kant, en fait, la connaissance est basée sur l'expérience sensible. Et les connaissances métaphysiques ne pouvant être, elles, que de type dogmatique. C'est-à-dire sans possibilité d'être validées par l'expérience.
Tout à fait. Et donc, pour Maritain, voilà, Kant est rangé dans le sillage des cartes, c'est-à-dire dans l'idéalisme. De ce fait,
oui,
voilà.
J'ai bien vu ça. Je pense qu'à mon avis, c'est une lecture, on va dire, pour le moins tronquée de la vision kantienne. Mais bon, c'est discutable, disons en tout cas. Pour Kant, je reviens là-dessus, hein, ce que Kant, sa première critique, en tout cas, il semblerait d'ailleurs que la philosophie réaliste chrétienne s'attache surtout à cette première critique, sans prendre en compte les deux autres, qui, à mon avis, sont tout aussi importantes. Mais évidemment, l'attaque de Kant, c'est contre les métaphysiciens de son temps, hein, Wolff en particulier, enfin, Wolff plus exactement, et Leibniz, pour qui bon, tout était connaissance. Alors évidemment, Kant a une définition de la connaissance qui est restrictive, puisque la seule connaissance pour lui, c'est celle des phénomènes sensibles. Et par exemple, croire à l'existence de Dieu ou croire à la création du monde, pour lui, ce n'est pas démontrable par l'esprit humain. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas pensable. Je pense que c'est ça aussi l'erreur. C'est qu'on pense que, du coup, Kant ne considère pas cette pensée métaphysique. Ce n'est pas ça. Ce qu'il ne veut pas, c'est quelle est la prétention à la connaissance telle qu'il la définit. Bon, et je crois que, pour revenir un peu à son œuvre globale, et ce qui fait qu'à mon sens, j'ai l'impression qu'il y a une lecture un peu exiguë et tronquée, c'est que Kant s'en explique tout à fait dans sa troisième critique. Il ne peut s'agir que d'une croyance et d'une foi et non pas d'une connaissance pour lui. Et derrière cette critique de la philosophie critique, moi ce que je vois, c'est surtout cette lecture un peu tronquée et biaisée de l'œuvre de Kant, qui est en fait beaucoup plus riche que ne le pensent ses détracteurs. Mais Kant a été mis à l'index pendant pratiquement tout le 19e siècle, il sera redécouvert au début du 20e. Donc, bon. Je crois que ce que vous avez mentionné à un moment donné, c'est que les pensées de Maritain sur l'éducation s'opposent à l'idée d'autonomie chez Kant. Je crois que j'ai entendu ça dans une des émissions. Et je voudrais un petit peu revenir sur cette histoire-là, comme un point, un exemple de la mécompréhension de ce que Kant dit, parce que pour ce qui est de Maritain, cette autonomie est plutôt vue comme une espèce de quintessence d'un individualisme forcené, et avec la perte de repères spirituels, pour lui, ça serait la source du mouvement des jeunes étudiants au cours de l'année 68, hein, c'est-à-dire un an avant l'apparition de son livre sur l'éducation. Or, ce qui me semble, moi, c'est que cette interprétation sur l'autonomie est largement erronée. D'une part, parce que pour Kant, l'autonomie, c'est surtout le signe d'une bascule dans le processus d'apprentissage, c'est le passage de la minorité à la majorité de la personne. C'est le signe que le jeune adulte n'a plus besoin de ses parents et de ses maîtres pour juger par lui-même. Kant écrit ça très bien dans le projet de paix perpétuelle. Et d'autre part, l'autonomie pour Kant, c'est aussi la capacité à produire soi-même des règles de conduite propres à échapper aux lois causales de la nature, c'est-à-dire la capacité à ne pas agir uniquement par nos instincts. Ça, c'est ce qu'il évoque surtout dans la métaphysique des mœurs, où il y a ce fameux principe catégorique, agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Je pense que c'est très important de voir qu'il faut que cette maxime devienne une loi universelle. Donc c'est sûrement pas l'individualisme que pour Kant, c'est tout le contraire, à savoir c'est le vivre en société. C'est ça l'universalité kantienne.
Oui.
Voilà, donc je tenais à faire cette mise au point parce que je pense que pour des auditeurs qui n'auraient pas une connaissance de Kant, Moi, il pourrait se dire, bah oui, Kant, c'est l'individualisme. C'est tout le contraire, je dirais.
Oui, alors je vais clore notre réflexion sur l'éducation avec une citation de Maritain, justement, qui distingue entre personne et individualité au plan métaphysique. Il dit, la personne, c'est en raison de la subsistance spirituelle de son âme, et c'est la finalité de l'éducation. Et l'homme est un individu en raison de ce principe de diversification non spécifique qui est la matière et qui rend les membres d'une même espèce différents les uns des autres. Et il faut conjoindre toujours les deux, individu et personne. Et au plan pratique, puisqu'il s'agissait du plan pratique dans la morale, comme vous l'avez rappelé pour la métaphysique des mœurs, on est par rapport à une règle. Là, il faut les deux. Il faut l'individu qui fait partie d'une société et la personne, mais dans l'éducation, dans ses propos sur l'éducation, en raison de la finalité ultime, qui est l'éveil de la personnalité, c'est finalement la notion d'autonomie par rapport à la personne qui est appliquée. Et finalement, on peut peut-être voir un pont entre Kant et Maritain, puisqu'on n'était pas au même plan entre individu et personne, me semble-t-il.
Oui, alors je ne vais pas développer. Effectivement, j'ai entendu ce développement autour de la différence entre individu et personne. Je pense que là, on n'aurait pas assez d'une seule émission pour s'expliquer sur ce qui est entendu derrière cette différence entre individu et personne. Mais effectivement, j'ai bien vu que c'était la distinction que voulait faire Maritain. Il n'y a pas de notion de personne chez Kant. D'ailleurs, le terme même de personne, qui est d'origine latine, persona, indique plutôt le masque qu'on veut porter en société, c'est-à-dire le paraître en société. Donc là, il y aurait beaucoup à dire, mais je pense que on n'a pas le temps ici de développer sur cet aspect.
Bach va nous permettre de nous réconcilier.
Philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Éducation et politique sont liées dans la République de Platon. Jean-Christophe René, vous vouliez attirer notre attention sur la contestation que l'on peut faire de la pensée politique de Maritain.
Oui, alors donc effectivement, j'ai pu écouter les deux émissions que vous avez consacrées à la politique et malheureusement, j'ai pas pu lire les écrits de Maritain eux-mêmes, mais ce qui en ressort pour moi, c'est à l'écoute de ces émissions, c'est que on peut pas parler à proprement parler d'un penseur du politique, mais je pense plutôt comme un penseur qui réfléchit à comment un catholique peut influer sur le politique. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur les rapports qu'a entretenu Maritain avec un milieu intellectuel catholique plutôt conservateur et de droite, avec ses amitiés que vous aviez bien justifiées avec des penseurs d'extrême droite nationaliste comme Maurras. Bon, il me semble que c'était le cas de beaucoup de catholiques traditionnalistes de l'époque. Bon, je ne pense pas qu'on peut en effet accuser Maritain de proximité idéologique avec ce nationalisme-là. Il me semble que les idéaux politiques de Maritain sont plutôt guidés par l'émotionnel, et en particulier la fidélité avec Léon Blois, pour qui il voue une amitié profonde. Et ces idéaux, ils se traduisent pour moi par une double détestation, d'une part celle d'une classe bourgeoise possédante et dirigeante, et une autre qui est celle, alors moins bien définie pour moi, sur le libéralisme. Alors c'est un petit peu sur ce thème-là que je voudrais juste faire une petite intervention. Ce qu'il faut voir, c'est le parcours de Maritain, parce qu'il a beaucoup évolué entre sa jeunesse et la fin de sa vie. On peut dire que, comme vous l'aviez rappelé, le motto de sa jeunesse anarchiste, c'était plutôt « ni Dieu ni maître », et qu'avec Léon Blois la pensée réaliste catholique, c'est devenu « ni bourgeois ni ouvrier, mais un seul maître, Jésus-Christ ». Voilà, si je voulais résumer. Alors, ni bourgeois ni ouvrier, c'est pour moi plutôt le signe du refus absolu du communisme marxiste qui pose la lutte des classes comme base des rapports sociaux. Il est quand même dans une époque où il y a une montée de ces mouvements à travers le socialisme et le communisme naissant. Je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'il y aurait vraiment trop à dire, c'est très intéressant, mais il y a beaucoup trop à dire. Je vais juste revenir sur son autre détestation, qui est le libéralisme. Et il me semble qu'il fasse remonter ce libéralisme-là à Rousseau et à sa notion de liberté. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, je voudrais quand même noter qu'il ne définit pas vraiment ce qu'il entend par libéralisme. Alors, il existe une variété assez considérable de libéralisme qui vont du libéralisme économique au libéralisme de gauche, au libertarisme de gauche ou de droite, et aussi à travers le mouvement des libres penseurs des Lumières. Et mon sentiment, c'est que le réalisme catholique il s'attaque plutôt à ce dernier type de libéralisme. D'une part, il est bien vrai que dans le contrat social de Rousseau, qui a inspiré largement les révolutionnaires de 1789 et en particulier la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, apparaît cette notion de liberté. Il me semble qu'il y a quand même deux remarques importantes pour éviter de faire l'amalgame qu'on peut avoir en écoutant Maritain. D'abord, premier, à propos de Rousseau et de son contrat social, il faut rappeler que Rousseau n'est pas français, mais il est citoyen de la ville de Genève, la cité de Jean Calvin, et que son contrat social s'appuie sur la sociologie de cette cité-là, c'est-à-dire une société relativement bien homogène d'artisans et de commerçants avec un certain niveau d'éducation. Et d'ailleurs, Rousseau précise que son modèle ne pourrait pas s'appliquer à la France, précisément parce que il y a une trop grande disparité sociologique et des niveaux d'éducation trop faibles. Alors, ça n'a pas empêché les révolutionnaires français de faire de Rousseau, et non pas de Voltaire, le penseur de la Révolution. Donc ça, c'est un point. Ma deuxième remarque, c'est la notion de liberté. Alors, dans un premier temps, je veux rappeler que pour Kant, la liberté, c'est pas un droit, mais c'est la façon dont nous avons d'agir en société par notre volonté. Il s'agit d'une liberté de devoir être et non pas une liberté d'avoir. C'est un point important. Et aussi une notion de liberté qui s'exerce au niveau de l'individu. La liberté dont parle Rousseau et qui sera reprise par les droits de l'homme et du citoyen est tout autre. Elle s'exerce d'abord au niveau des citoyens et non plus de l'individu. Et cette liberté, elle est inséparable de l'égalité et de la fraternité. Et il s'agit cette fois d'un droit. Mais pas d'un droit à la liberté, mais d'une liberté de droit. La déclaration dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Ça signifie que la loi, dans le cadre de cette déclaration, vous garantit le libre accès aux institutions de la République et en premier lieu à l'éducation, quelle que soit votre origine sociale, votre constitution physique ou mentale. Et là encore, cette liberté, c'est pas du tout le synonyme de l'individualisme. La Constitution de la République garantit ce droit, quels que soient les changements politiques qui pourraient se venir. Et c'est dans ce sens qu'est écrit le second article qui dit « Le but de toute association politique, c'est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Et ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Voilà, je crois que c'était important de revenir sur ça et d'essayer de ne pas trop simplifier la notion de liberté, que ce soit chez Kant à travers l'autonomie ou chez Rousseau à travers sa notion de liberté au sein d'une société.
Merci.
Parce que c'est beaucoup moins une notion d'individualisme que de vivre en société.
Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, je vais revenir donc sur la volonté générale, le « nous » qui ouvre finalement le contrat social de Rousseau, le « nous » faire peuple. Même si on passe de la Suisse à la France, il est intégré dans la démocratie française et c'est corrélatif de la notion de liberté. C'est-à-dire que la liberté chez Rousseau, même si elle est de droit, elle est justement préexistante. Alors que chez Maritain, elle est à acquérir, à conquérir. Et il est très clair dans L'homme et l'État, il écrit « Une société d'hommes libres, en effet, suppose des principes fondamentaux qui sont au cœur même de son existence. Une démocratie authentique implique un accord foncier des esprits et des volontés sur les bases de la vie commune. Elle est consciente d'elle-même et de ses principes. Et elle doit être capable de défendre et de promouvoir sa propre conception de la vie sociale et politique. Elle doit donc porter en elle un commun credo humain, le credo de la liberté. On voit comment il y a un décalage, un déplacement du « nous » qui devient ici les bases de la vie commune et de la liberté comme de facto, hein, quelque chose qui anticiperait et qui serait de droit. Ici, c'est un credo et ça engage la volonté, puisqu'on reste au plan pratique. Donc la volonté est engagée dans ce credo de la liberté qui va devenir le plan pratique, le plus petit dénominateur commun que l'on va retrouver dans la conférence de Mexico, sur lequel on peut s'entendre. Maritain, certes, est héritier de Léon Blois. Vous avez insisté sur une dimension affective, voire émotionnelle. Oui, dans la mesure où la pauvreté lui fait horreur. Comment peut-il y avoir des pauvres? Comment peut-on accepter de vivre avec ces pauvres? Et vous avez une très bonne perception du marxisme, puisque Maritain consacrera 2 chapitres au marxisme dans son volume « La philosophie morale » et il appellera le marxisme « la dernière hérésie chrétienne », un christianisme inversé. Et c'est très important pour lui. Donc vous avez très bien perçu cette importance finalement du néolibéralisme qui fait fi de ces pauvres laissés sur les bords de sa marche en avant. Donc cette remise au point pour moi est fondamentale parce qu'il ne s'agit pas de la volonté générale, il s'agit d'un credo et il ne s'agit pas d'une liberté donnée déjà et du coup en droit, mais d'une liberté à conquérir, à acquérir. Je vous laisse la parole pour terminer l'émission sur une problématique très contemporaine qui était passionnante dans la préparation de l'émission, mais hélas que le temps est obligé de décourter.
Bien, alors effectivement, il y a tellement à dire que c'est difficile. Moi, j'avais choisi 3 petits thèmes, mais on pense qu'on va en traiter qu'un seul. C'est d'une part, aujourd'hui, Maritain face à la laïcité, qu'est-ce qu'il aurait pensé ou écrit sur la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État, et qu'est-ce qu'il penserait aujourd'hui du débat contemporain sur la laïcité, et notamment de la difficulté qu'a la France aujourd'hui à expliquer ce concept au reste du monde, et aux États-Unis et aux pays anglo-saxons en tête. Le caractère unique de cette laïcité à la française est mal compris, précisément non pas parce qu'il interdirait l'expression des religions, mais parce qu'il autorise tout autant l'expression de ceux qui n'ont pas de religion. Et le droit à ne pas croire et même à critiquer la religion fait partie de la laïcité. De même que la laïcité refuse aussi que l'expression religieuse, quelle que soit son origine d'ailleurs, ne s'exprime à travers le débat des affaires publiques. Donc il est strictement réservé à l'ordre privé et à l'intérieur de cercles privés culturels. Ça aurait été intéressant d'avoir une discussion là-dessus. Le deuxième point, c'est Maritain face à la pluralité culturelle et cultuelle. C'est un petit peu en ligne avec ce que vous disiez en introduction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit avec l'ère des réseaux sociaux et de l'Internet. Et ces réseaux sociaux ont favorisé des échanges mondialisés, pour le meilleur comme pour le pire. Hein. Et notamment la reconnaissance des droits des minorités à s'exprimer, qui a favorisé, on le voit aujourd'hui, des mouvements communautaires qui, s'ils sont bien acceptés dans les pays justement anglo-saxons, rentrent en opposition frontale avec le modèle intégrationniste à la française. Les réseaux sociaux sont progressivement devenus des îlots de communication intolérants et violents vis-à-vis de ceux qui n'en font pas partie. Le même appelle le même et il exclut l'autre. Alors, où se serait tenu Maritain dans ce débat? Est-ce qu'il aurait été, par exemple, Charlie pour préserver la liberté d'expression, fût-elle son droit à critiquer les religions? Voilà autant de questions qu'on pourrait se poser si Maritain vivait à notre époque.
Merci, c'est une ouverture. Nous reprendrons la relève autour de la laïcité à la fin du mois de mars, qui sera consacrée à la liturgie et la contemplation. Merci Jean-Christophe.
Merci à vous, Claire.